Salut. Bienvenue dans Essaye encore. Le podcast qui dédramatise l'échec. J'y reçois des gens connus et moins connus qui me racontent comment ils se sont plantés. Salut tout le monde et bienvenue donc dans cet épisode 39 de Essaye encore. L'épisode précédent, j'avais reçu Jean-Pierre Michael, la voix française de Brad Pitt, entre autres, de Keanu Reeves également. Si vous ne l'avez pas écouté, c'était un magnifique éloge au théâtre et à l'art du théâtre. Je vous invite à aller écouter ça, faire la rencontre d'un chouette bonhomme, une chouette personne, vraiment, et puis de mettre aussi des pouces, des étoiles et des likes et compagnie pour le podcast. Ça permet d'exister un peu plus, moi ça m'aide beaucoup. Cette fois-ci, j'ai discuté avec celui qu'on appelle Monsieur Born to be Alive.
Il faut s'arc-bouter, prendre les coups et puis les encaisser, et à un moment ou à un autre, ça va le faire, quoi.
L'homme aux 56 disques d'or, celui qui vous a forcément fait danser à un moment donné. Dans une soirée d'abord destinée aux langues et à l'anglais principalement, il change son fusil d'épaule en moins d'une demi-heure à cause des Beatles. Nous sommes en 64 et la vie de Patrick Hernandez vient de changer. Elle changera encore quelques années plus tard avec le succès planétaire de la chanson Born to be Alive. Une chanson qui a bien failli d'ailleurs ne jamais voir le jour et être jetée à la poubelle. Avec lui, on raconte donc toute l'histoire de cette chanson, aussi celle des années compliquées qu'on suivit derrière. On parle de lâcher prise, de persévérance et ça ne s'oppose pas. On revient aussi sur cette fois où il a dit non à la maison de disques de Claude François pour finalement galérer sur la route. On a parlé d'introspection, de faire la différence entre un tube et un standard, de Star 80 bien sûr et Scoop, d'un biopic en préparation, mais chut, je ne vous ai rien dit. Au bilan, j'ai rencontré un très chouette humain et cet épisode est un éloge au lâcher-prise, à la bonne étoile et à la sagesse. Alors, installez-vous confortablement les amis et c'est parti donc pour Patrick Hernandez, épisode 39, Essaye encore. Et ça commence maintenant.
Bonjour à tous.
Bienvenue, quel plaisir d'avoir l'homme aux 56 disques d'or, c'est ça, hein?
Oui, tout à fait, c'est 56 disques d'or. Il n'y a pas eu que des échecs dans mon existence.
C'est ça. Bien que ça aurait pu être finalement un échec, cette histoire de chanson Born to be Alive. On va y venir, bien sûr. Le podcast s'appelle Essaye encore, je le disais. Pour ceux qui connaissent le concept même, savent que j'ai une question, une seule et unique question écrite. Et encore, fallait-il l'écrire? C'est qui es-tu, Patrick Hernandez? Au-delà donc, effectivement, de l'auteur de Born to be Alive, comment tu te présenterais à nous?
Bah, écoute, je suis un garçon assez tranquille. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre de quelqu'un qui a fait une chanson qui s'appelle Born to be Alive, j'aime bien le calme, j'aime bien la campagne, j'aime bien la nature. J'ai une passion absolue pour la gastronomie, pour la cuisine, en plus donc bien évidemment de la musique. Mmh. Et je suis assez solitaire. Je suis un garçon qui vit un peu comme un grizzly dans sa caverne quelque part.
Et alors c'est rigolo, sa passion pour la cuisine. Qu'est-ce que t'aimes genre cuisiner?
J'aime tout cuisiner. Là, je suis en préparation de liste de cuisine, mais en fait, si tu veux, il y a effectivement, il y a 4 bouquins qui sont en préparation. Il y a 2 bouquins sur la cuisine française et belge, effectivement, qui étaient quand même très très larges. Et il y a 2 bouquins sur la cuisine étrangère. Alors, quand je dis étrangère, ça va du Liban, en passant par les États-Unis, en passant par l'Amérique du Sud, en passant par le Brésil, la Hollande, l'Angleterre. Donc j'aime faire la cuisine, j'aime les produits, j'aime les gens avec lesquels je discute, les commerçants par exemple. J'adore les discussions avec mon boucher, on n'en finit pas pour choisir des morceaux.
J'ai le même chez moi.
c'est vraiment une passion et donc c'est vraiment ma deuxième passion après la musique.
Après la musique, d'accord. Mais ouais. Peut-être parce que c'est un peu comme la musique, c'est-à-dire que c'est une histoire de recette, mais au final, il y a beau avoir la recette, ça reste le coup de main finalement qui fait que ça va être bon.
Oui, c'est une sorte d'alchimie en fait, un petit peu comme la musique aussi, et la cuisine est une alchimie, ça c'est indéniable. C'est vrai que il y a le coup de main, mais il y a le coup de main en musique aussi. Hein. Donc voilà, il y a dans les deux un coup de main. Il faut l'avoir.
Alors une passion pour la cuisine, d'accord. Un homme un peu solitaire, un peu dans sa campagne. Voilà pour la présentation. Et donc passionné de musique aussi. Effectivement, on ne peut pas ça passer à côté. Comment est venue la musique dans ta vie? C'est un accident au début, genre t'as découvert un jour par hasard, ou tu voulais faire de la musique depuis toujours?
Alors c'est vraiment le hasard et c'est vraiment très très précis. En fait, lorsque en 1964, tu vois, ça remonte à quelques années, j'étais un garçon extrêmement studieux qui travaillait très bien à l'école, très sage, et je me destinais au professorat d'anglais. J'avais une passion pour la langue anglaise et mes parents ont eu la très mauvaise idée en 64 et 65, donc pendant 2 ans, de m'envoyer vivre dans une famille de 3 sœurs, les sœurs Hollande, dans un petit village au bord de mer dans le Kent qui s'appelle Home Bay. Et j'ai un soir, avec ces trois vieilles dames, eu la surprise de voir apparaître en noir et blanc sur la télé les Beatles en 64, qui chantaient She Loves You pour être très, très, très exact. Et j'ai pris un coup de cœur, et je me suis dit non, mais je veux plus faire le professeur à l'anglais, je veux faire ça. C'est ça, parce qu'en fait, ça m'a touché. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une révélation, alors que, honnêtement, une demi-heure avant, je ne pensais absolument pas faire le jour de la musique. Mon père jouait du banjo. Mon père, il était pharmacien, mais il avait une passion pour la musique, et donc il jouait du banjo et de la mandoline. Et en fait, même ça ne m'a pas inspiré quand j'étais gamin. J'avais pas du tout envie de faire de la musique. Et c'est vraiment une révélation avec les Beatles au travers de cette chanson très particulière. Il faut dire que c'était pourquoi les Beatles à cette époque-là ont eu tant de succès, c'est que ça sortait vraiment des sentiers battus, et que leur voix, surtout sur Silencio, était tout à fait particulière, extrêmement aiguë. Enfin, il y avait vraiment des accords de voix qui étaient un peu particuliers. Mm-hmm. Donc voilà, ça m'a emballé complètement. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pas laissé tomber les études à cette époque-là quand même, mais disons que j'ai commencé à faire de la musique. Aussitôt rentré en 65 en France, je me suis acheté ma première guitare et j'ai commencé à gratouiller avec les copains, quoi. Voilà.
D'accord. Ah oui, c'est en une demi-heure, genre t'as vu les Beatles et c'était parti. Donc,
une
grâce
vraie
aux Beatles.
Oui, complètement. Que j'aime toujours. J'écoute régulièrement encore ce matin. Quelques chansons des Beatles. Je suis toujours très 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 fan, en fait, très très amateur de leur musique.
Alors, question tiens, pour quelqu'un qui les a connus à ce moment-là, au moment où ils émergeaient finalement, parce que moi c'est intemporel pour moi, les Beatles, ou comme les Rolling Stones ou n'importe, parce que je les ai toujours connus, et j'ai connu les chansons existantes. Elles étaient déjà entre guillemets vieilles, c'était plus ce qui se jouait, donc moi ça ne vieillit pas. Mais est-ce que pour quelqu'un qui les a connus comme toi là, au moment où ils émergent, est-ce que ça a vieilli? Est-ce que la musique vieillit quand même ou pas?
En ce qui concerne les Beatles, d'une manière très étrange, ça ne vieillit pas. Ce sont des choses qui sont absolument intemporelles. Je voyais un article ce matin et il me semble que la sortie de leur premier 45 tours, Love Me Do, il y a 60 ans, quoi. Donc ça n'a pas pris une ride. Et bon, les Stones non plus, hein, quand on écoute Satisfaction.
Non, eux en ont pris, mais leur disque non, ça va.
Oui, quelques rides. Bah, McCartney également, d'ailleurs, le pauvre. C'est vrai qu'il a quand même 80 balais, donc c'est vrai qu'il a pris quelques rides, quoi, qu'il soit encore très représentatif. Mais bon, il a l'âge de ses artères, le pauvre.
C'est vrai.
Mais bon, non, ça, leur musique n'ont pas pris c'est vraiment le type de musique intemporelle, c'est-à-dire quand on écoute leur succès, Let It Be, n'a pas pris de ride. Ça aurait pu sortir hier sans aucun souci. Comme Band of Violence, d'ailleurs.
Bah, exactement. Mais écoute, tu l'as fait, mais c'était ma transition. Mais oui, effectivement, t'avais pas du tout comme projet de faire quelque chose d'intemporel. Pour autant, non. C'est ce qui se passe, Band of Violence. On l'écoute aujourd'hui. On pouvait l'écouter il y a 20 ans en arrière. C'est la même chanson et ça fait effectivement toujours danser. Plus les mêmes gens nécessairement, quoique. Ils sont toujours là. Mais il y en a des nouveaux qui s'ajoutent. Alors racontons. Je te l'ai déjà demandé pour la radio, mais on va évidemment y repasser ici. Racontons un peu, et là on a le temps de raconter dans le détail l'histoire folle de cette chanson qui a failli finalement pas voir le jour.
Tout à fait. Cette histoire commence en 1973 lorsque j'écris la chanson. J'écris une chanson un jour en réfléchissant à ceux qui m'entourent et qui ne vivent que à moitié toutes les choses de leur vie, de leur existence. Mmh. C'est-à-dire des gens qui, aussi bien au niveau de leur boulot, au niveau de leur relation avec les autres, au niveau des amours, vivent les choses à moitié, pas complètement. Donc ça m'énerve un petit peu. Et donc j'écris cette chanson dont la signification, par exemple, celui-là, né pour être vivant, ça veut dire effectivement né pour vivre absolument pleinement les choses et pas à moitié. Mmh. Donc voilà, la chanson est écrite dans ce but-là en 73. Bon, elle est écrite d'une manière acoustique, un peu folky, un peu Bob Dylan quelque part, et elle reste dans les tiroirs pendant quelques temps. Et deux ans après. Je travaille dans un groupe de rock qui s'appelle Paris Palace Hotel, et donc on tente une version rock. Quand je dis rock, il faut relier ça au groupe Eagles ou au groupe Doobie Brothers, par exemple. C'est du rock un peu du rock plus américain qu'anglais finalement. Et donc c'est enregistré. Mais ça ne sortira jamais parce que ça n'intéresse personne. Donc ça reste à nouveau dans les tiroirs. Et le producteur de ce groupe me rappelle 3 ans après, c'est-à-dire en 78, en me disant maintenant que tu n'es plus dans le groupe, moi ça m'intéresserait de m'occuper de toi à titre
perso, quoi.
D'artiste personnel, tout seul. Et donc il me fait venir en Belgique, c'est un producteur belge, il me fait venir en Belgique avec le projet de me faire enregistrer une chanson qui s'appelle Making Love, donc qui n'a rien à voir avec Band of Violence et qui n'est pas de moi en plus, cette chanson Making Love. Voilà, donc on travaille sur cette chanson et pendant les enregistrements de cette chanson qui dure quand même quelques jours, il me demande de lui rejouer des chansons du groupe Paris Palace Hotel qu'il avait donc produit précédemment, quoi. Et bien évidemment, je lui joue une des miennes, et une des miennes, ce sera donc, entre autres, Born to Live. Et donc, il retombe amoureux de cette chanson, en me disant, voilà, j'ai une idée un peu folle, qui va pas te plaire, parce que je sais que c'est une musique que tu n'affectionnes pas particulièrement, mais j'ai une idée sur cette chanson, on pourrait en faire, en ce moment, on est en plein dedans, on pourrait en faire un morceau un peu disco, dance et tout, etc. Alors effectivement, c'est pas vraiment mon truc, mais enfin, j'ai 30 ans à l'époque et je me dis que voilà, il faut quand même essayer les choses pour voir avant de se faire une opinion définitive. Donc j'essaye.
Déjà très sage à 30 ans.
oui, non, à 30 ans, on est certainement, peut-être que si on me l'avait proposé à 18 ans, j'aurais dit non définitivement. Hein. Mais à 30 ans, on met un peu d'eau dans son vin, quoi. Donc voilà, j'appelle un copain de Paris Palace Hotel, Hervé Tolance, avec lequel je m'entendais bien musicalement, et je m'entendais bien, c'était vraiment un ami. Et donc, on part faire une maquette sur une feuille de route de notre camarade producteur Jean Renlo, donc, pour ne pas le nommer. Et en fait, il nous avait dit, voilà, je voudrais une batterie comme ça, je voudrais le Charleston qui fasse ça, je voudrais la grosse caisse qui fasse ça, je voudrais une vitesse métronome à telle allure et tout, etc. Et puis après, éclatez-vous, enfin, faites ce que vous savez faire, des trucs des Beatles, machin, des voix, de la guitare, des machins, etc. Bon. Donc, on respecte sa feuille de route. Et puis après, on s'amuse. Alors, effectivement, Hervé trouve cette partie de guitare qui deviendra, le trademark, le premier trademark à la première seconde de la chanson. Mmh. Et ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on la reconnaît à la première seconde, quoi. Et puis on s'amuse à faire des voix qui sont celles que l'on entend sur le disque que tout le monde connaît, etc. Et donc le soir, quand nous sommes rentrés pour finir, parce que c'est un peu long l'histoire, mais enfin moi il faut quand même que je la raconte.
Ben oui, au moins le temps.
D'une manière intelligente. Le soir quand on rentre, on a la surprise avec donc notre petit bobino, un petit bobino de Revox sur lequel on avait enregistré donc c'est ce qu'on avait fait dans la journée. On a la surprise d'entendre le producteur nous dire ben vous avez fabriqué une bombe atomique. Et là honnêtement bon voilà, nous on est un peu tombé sur le cul bien que à l'écoute on se disait quand même son idée est pas si mauvaise que ça, même si on n'est pas tellement disco, même si c'est une musique qu'on affectionne pas tellement. Mmh. Honnêtement, le costume qu'on vient de mettre à cette chanson, c'est peut-être le meilleur costume qu'on lui a mis depuis le départ, quoi. Donc déjà, on avait mis l'eau dans notre vin. Et puis on part du principe qu'il y a que les imbéciles qui changent pas la vie aussi. Donc finalement on se dit bon voyons ce que ça va donner. Mmh. Et donc on était très contents et très satisfaits les uns et les autres, à la fois le producteur et nous, du travail qui avait été opéré là-dessus. Et donc pour terminer le truc, il faudra donc effectivement plus de 6 mois pour imposer cette chanson en France.
Oui, parce que pour finir, là, elle est fabriquée, ouais. Elle est faite, mais elle ne ouais. décolle pas à ce moment-là pour autant.
Elle décolle surtout pas en France, et donc on veut désespérer au bout de 6 mois. On décide, sur les conseils d'un ami commun, d'aller la proposer en Italie, à Milan, dans un petit label. Et là, ça sort en Italie et en l'espace de 15 jours, c'est joué par toutes les radios et par toutes les discothèques et ça devient numéro 1 très 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 rapidement. Muni de cette information, le producteur belge se dit « bah je vais faire la même chose en Belgique, tant pis pour la France, c'est pas grave, j'ai un label, je le sors en Belgique ». Et le résultat est exactement le même, c'est-à-dire au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est numéro 1 au hit-parade. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça va être une traînée de poudre, et notamment après, donc la France, en troisième lieu, va sortir le disque, et ça restera pendant des mois au hit-parade en France, et on vendra des tonnes de disques un peu partout. Et après, c'est l'Amérique du Sud, le Canada, l'Est, la Scandinavie, enfin, etc., etc.
La chanson a fait le tour du monde. Est-ce que toi aussi, du coup, pour la jouer, ou est-ce que t'es resté finalement très très chez nous?
Ben non, le casanier que je suis, malheureusement, à l'époque, c'était juste avant, vraiment juste avant. J'ai raté le coche. Hein. C'était juste avant la mode de ce qu'on appelait le clip, ouais. Le clip vidéo. Et en fait, il fallait à l'époque, donc ça, je parle de 1979. Pas 1879.
Non,
1979.
Non.
Il fallait, quand on avait besoin de faire la promotion d'un titre, il fallait se déplacer. Donc j'ai fait vraiment le tour du monde plusieurs fois, des voyages complètement improbables pour finalement pratiquement jamais faire de la promotion sur mon titre parce que j'arrivais dans les pays, le titre était déjà numéro 1. Donc je venais juste faire coucou. Voilà, je venais faire juste coucou aux gens, ramasser des clés, des disques d'or, les clés de la ville, etc., et des récompenses multiples et diverses. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup de voyages à l'époque, ce qui aussi explique d'une certaine façon que après Bande Mélade, il y a eu une espèce de latence parce que finalement, j'ai passé plus de temps. J'ai commencé la promo en fait de cette chanson en janvier 79 et je l'ai terminée au milieu de l'année 81. Donc, je n'ai fait que ça pendant 3 ans pratiquement. Et ce qui explique que c'était pas simple de retourner au studio, de faire de nouvelles choses, mmh. de se renouveler, quoi, quelque part.
Ouais. La première fois que tu l'entends à la radio, alors, cette chanson, c'est où, comment, est-ce que tu t'en souviens?
Je pense que c'est,
en Italie, du coup, non?
En Italie, tout à fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Italiens, ont eu la bonne idée de mettre en route les radios libres avant les Français.
Ouais, 81, c'est nous, hein, c'était donc avant là-bas.
Ouais. Et là-bas, c'était déjà en place en 79. Donc c'était extraordinaire parce que au début, il y avait à boire et à manger sur les radios libres comme partout d'ailleurs, entre parenthèses. Et on entendait Bandjirev dans une voiture sur la radio, donc j'étais très 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 content de l'entendre. Et donc sur une radio X, et on tournait à droite dans une autre avenue, on changeait de fréquence et on entendait Bandjirev.
Limite, c'était la suite, quoi.
Y. Donc c'était assez drôle. Et effectivement, le soir, on sortait, il n'y avait pas une discothèque qui le jouait pas, mais plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la soirée, c'était vraiment, et là, j'étais à Vérone, il n'y a pas très très longtemps, aux arènes de Vérone, pour la RAI, pour la télé, et cette chanson, Bandjirev, elle a un impact encore en Italie, on dirait un hymne national, quoi. On dirait un deuxième hymne national pour l'Italie. Donc voilà, je l'ai entendu là, effectivement, la première fois, c'était en Italie, vraisemblablement dans une voiture ou dans un taxi avec la radio.
Ouais.
Et bien évidemment, ça fait chaud au cœur, d'autant qu'on est passé près de la catastrophe, puisque au bout de 6 mois, la logique aurait voulu que le producteur dise, bon, j'arrête les frais, je prends le disque, je le fous à la poubelle, on va faire autre chose, quoi.
Ouais.
Parce que là, honnêtement, il a eu une constance absolument incroyable, quoi. Il croyait en ce titre absolument d'une manière folle, quoi. Et c'est grâce à cette constance que le disque est sorti, parce que finalement, il avait vraiment toutes les chances de finir au bac.
Mm. Et pas non, dans les bacs, du coup.
Et là, dans les bacs, mais d'autres.
Est-ce que c'était déjà extraordinaire à l'époque, donc, de le tenir et de, je comprends que oui, mais de le tenir vraiment 6 mois et d'essayer? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une époque où on consomme très très vite, et je suppose que n'importe quel producteur aurait effectivement abandonné très vite. Mais ça, c'est l'époque qui est comme ça. Est-ce qu'à l'époque, à une époque où on allait entre guillemets moins vite, c'était déjà extraordinaire d'essayer 6 mois?
C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'est surtout lié effectivement à la constance du producteur qui a tenu contre vent et marée. Mais il avait même un associé. D'ailleurs, ils étaient deux sur le coup. Et le deuxième, lui, avait déjà même fait fabriquer un deuxième 45 tours parallèle au 45 tours de Bandjirev sur une autre chanson de l'album qui s'appelait Rendez-vous. En disant, il faut laisser tomber Bandjirev parce que personne n'en veut, et il faut essayer de promotionner la chanson Rendez-vous. Donc en fait, je me suis retrouvé effectivement avec, c'est plutôt original, avec deux 45 tours qui ont été fabriqués dans la même année, dans les mêmes mois, et avec deux pochettes identiques. La pochette de Bandjirev est verte, et la pochette de Rendez-vous, c'est exactement la même pochette, mais en rose. Donc, ce producteur belge a eu de la constance en disant non, on va essayer de par tous les moyens de trouver un biais pour sortir cette chanson. Et on a vraiment été jetés par tout était cumulé, les radios, les télés, nos copains de la presse, machin, personne n'en voulait. Il y avait toujours une bonne raison. Le tempo était trop rapide. Born to Be Alive était un pléonasme pour les Français. C'est quand même hallucinant de savoir quand même que Born to Be Alive, le texte et le titre, ont été étudiés dans les écoles aux États-Unis. Parce que effectivement, c'est quelque chose qui est pléonasmique, mais qui ne se dit pas dans la langue anglaise, dans la conversation anglaise, ça ne se dit pas, mais littéralement, c'est quelque chose qui est permis. C'est la licence poétique, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et en fait, ça ouvre des portes. Et moi, je savais pas que j'avais fait de la philosophie. Je l'ai fait sans savoir, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans savoir.
C'est ça, voilà.
Et je me suis aperçu par la suite, effectivement, que ça correspondait Et ça faisait résonner une corde absolument incroyable, une corde sensible chez toutes les minorités, anglo-saxonnes, j'entends. Hein. Donc, les Français avaient décidé que c'était un pléonasme et qu'on ne pouvait pas le dire. Mais vous voyez à quel point c'est con, quoi. Vraiment. Et donc, il y avait ça, il y avait le nom qui n'allait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom ? Patrick, c'est irlandais, Hernandez, c'est espagnol. Il y en a même un qui a dit que ça faisait boniche espagnol, Patrick Hernandez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et le même, 6 mois après, me disait, Patrick Hernandez, je suppose que c'est un pseudonyme. Ah non, c'est mon prénom et puis c'est mon nom. Mais alors j'en ai qu'un, en plus, je peux pas en changer. Oh là là, ça sonne tellement bien qu'on dirait un pseudonyme. Tellement ça sonne bien. Enfin bon, voilà, il y avait toutes les raisons pour effectivement mettre ce pauvre disque de Born to Be Alive à la poubelle.
Alors justement, dans Essaye encore, l'idée c'est de parler de ces moments-là un petit peu. Comment toi tu le vivais à cet instant précis? Tu avais donc une trentaine d'années, si j'ai bien retenu, ou avoisinant. Et du coup, comment toi tu vis quand ça ne veut pas sortir?
Bah, j'avoue que je le suis encore maintenant. Je laisse les choses se faire. Parce que, en fait, moi, je me considère comme un musicien, comme un compositeur, comme un auteur. Ce qui concerne le business, même encore à l'heure actuelle, hein, je délègue et je ne m'en occupe absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui ne me passionne pas. Et donc, à l'époque, je prends mon mal en patience en disant, ça n'est pas ton métier. C'est pas à toi de t'en mêler, et donc je laisse faire les choses. En plus, c'est dans mon caractère, je n'ai jamais forcé les événements. C'est-à-dire que de ma vie, je n'ai jamais enfoncé les portes. Si on me jetait par la porte, je rentrais pas par la fenêtre. C'est quelque chose. Je laissais les choses faire selon mon ressenti, quoi, en fait. Et d'ailleurs, quand j'ai intégré le groupe Paris Palace Hotel dans les années 74. J'avais une proposition de Claude François pour devenir un artiste flèche à l'époque, donc de la maison de disques flèche, et je ne sais pas pourquoi, mon instinct m'a dit non, ne fais pas. Et donc je suis parti en galère avec un groupe qui traînait la savate et qui gagnait pas l'argent, mais j'avais envie de faire ça, et je l'ai bien fait, puisque c'est au sein de ce groupe que j'ai effectivement écrit Born to Be Alive. Mais vous voyez, je n'ai jamais forcé le destin, quelque part. Ouais. Ça, c'est une de mes caractéristiques. Quand je sens quelque chose, je le fais. Quand je le sens pas, je le fais pas. Même si on me conseille de le faire, quoi.
Ça, c'est ouf, parce que, effectivement, il y a des gens, ils courent toute une vie pour apprendre à lâcher prise comme ça.
quand j'ai refusé de signer le contrat avec Claude François, tous ceux qui m'entouraient m'ont traité de fada, quoi. Parce que c'était un des deux artistes majeurs. Il y avait Johnny Hallyday et Claude François à l'époque, étaient les deux artistes majeurs en France. Le mec, il trouve que j'ai du talent et que j'ai un physique, que si, que là, machin, il veut me signer pour me. Et en fait, juste derrière moi, à ma place, il a signé Chamfort, d'ailleurs, Alain. Il cherchait vraisemblablement un mec assez grand, avec les cheveux frisés, brun, un peu long. Donc, on avait un peu le même look à l'époque. Et les gens qui m'entouraient ne m'ont absolument pas compris pourquoi j'avais jeté le stylo en disant non, je signerai pas ça. Donc, voilà, il faut croire à son étoile, il faut croire à son destin, il faut croire à ses ressentis quelque part. Et donc ça m'a bien évidemment réussi sur le coup.
Ah bah oui, là pour le coup en effet. Et ben c'est assez étonnant justement, parce que généralement il y a l'entourage comme ça qui fait que c'est dur de garder une décision comme celle-là, de dire non, j'y vais pas, et de l'assumer. Après on peut se mettre à douter, dire est-ce que je fais pas une erreur, etc. Et est-ce que ça tu l'as quand même vécu, mais t'as gardé ton cap ou même pas? T'as même pas de doute?
Non, j'ai gardé le cap. J'ai gardé le cap en me faisant traiter de fada par tout le monde, par les gens avec la avec lesquels je même la famille à l'époque, la famille, les gens que je fréquentais, les amis, les copains, ils m'ont tous traité de fada. Mais moi, j'ai tenu contre vents et marées. Et ça c'est une de mes, enfin c'est un de mes traits de caractère assez forts. Quand j'ai une idée derrière la tête, je l'ai pas ailleurs, comme on dit.
vaut mieux qu'elle soit dans la tête, ma foi.
Oui.
Alors bon, du coup on cerne le personnage, d'accord, mais pour autant, est-ce que quand ça ne sort pas, alors c'est une étape secondaire, parce qu'il y a déjà dans un premier temps le fait que tu l'aies écrite, cette chanson un peu, tu disais, folk au début, puis une version rock, puis ça arrive à cette version disco. Donc c'est retravaillé sur ce que tu avais pu faire au départ, puis même retravaillé, ça met du temps. Est-ce qu'il y a, au-delà de ce lâcher prise donc qui est un peu caractéristique, quand même une sorte de frustration, ou en tout cas de remise en cause, dans le sens, j'ai un peu raté ce que j'avais écrit, il a fallu le retravailler, même retravailler ça ne veut pas bien vraiment marcher. Est-ce qu'il y a un sentiment à un moment donné quelque part, alors d'ailleurs ça peut être sur cette chanson ou ailleurs, de sentiment d'échec, ou est-ce que jamais tu ne ressens ce sentiment finalement?
Sûrement je dirais jamais. Par contre, les échecs honnêtement, on avait l'impression d'avoir en plus, on a deux oreilles, plus les oreilles d'Hervé Tolland, ça fait quatre, plus les oreilles du producteur, ça fait six, et on était sûr d'avoir été au bout de ce que l'on pouvait faire sur cette chanson. Donc, les échecs vont venir après, et ils seront assumés, et c'est là où je vais apprendre beaucoup de choses au travers des échecs. Mais sur Banks Bierlein,
ça n'en est pas.
Non, pas du tout. J'y ai cru jusqu'au bout, en me disant, voilà, il faut s'arc-bouter, prendre les coups et puis les encaisser, et à un moment ou un autre, ça va le faire, quoi. Ouais. Donc la vie m'aura donné raison, et c'est après que ça va devenir, bien évidemment, beaucoup plus compliqué, quoi.
Alors, justement, quand est-ce qu'arrive le premier bid derrière ça, derrière ce succès?
Alors, les premiers bids, ça va tarder un petit peu, mais par contre, les premiers reproches qu'on va me faire viennent assez rapidement après Band, parce que un peu têtu comme je suis, effectivement, j'avais un album qui était fait avec des chansons qui étaient un peu effectivement dans l'esprit de Band Villa, mais notamment une chanson qui sortira en troisième single tiré de l'album, qui s'appelle Disco Queen, et qui était vraiment un petit peu dans l'esprit de Band Villa, mais que les exégètes connaissent parfaitement bien. Mais mon camarade Hervé Tolland, qui était vraiment un chanteur et un musicien tout à fait exceptionnel, ayant vraiment contribué au succès de Band Spirav en y ajoutant effectivement cette guitare que tout le monde reconnaît, en ajoutant cette magnifique voix grave, il a signé d'une certaine façon ces passages-là de la chanson, et donc j'ai envie de lui renvoyer l'ascenseur, et comme c'est aussi un chanteur exceptionnel, je fais un duo avec lui, un duo qui s'appelle Back to Boogie, et qui était aussi sur l'album donc de Banks Bierlein. Et là déjà, les gens à la télé commencent à me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec affublé de lui, qui ne sait pas bouger, c'est à la télé et tout, pourquoi tu t'embarrasses de ça, et donc je commence déjà à avoir des reproches à ce niveau-là. Mais en deuxième 45 tours qui suit l'énorme succès de Band to Be Live, malgré tout, Back to Boogie aura du succès. Il sortira dans plusieurs pays, et c'est encore une fois une chanson que les exégètes connaissent bien. Après, il y a Disco Queen, mais c'est un peu tard. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait les choses un peu à l'envers. J'aurais dû plutôt sortir Disco Queen en deuxième et Back to Boogie éventuellement en troisième lieu. Et puis après, il y a un véritable problème. C'est que on était en 79, dans le village, bien accueilli comme un titre disco. Il y en aura d'autres d'autres artistes, mais c'est la fin de cette période disco. On arrive vraiment à la toute fin où les gens considèrent vraisemblablement qu'il y a eu trop de disco, que le trop de disco tue le disco. Ouais. Et à partir de 81, il y a une overdose sur cette musique et ceux qui ont touché cette musique de près ou de loin deviennent persona non grata en radio, à la télé. Plus personne ne veut de nous à l'époque. Mais je suis pas tout seul dans le cas. On est toute une bande de gens qui voilà. Et disons que la production musicale est passée à autre chose. Mm-hmm. Alors là, on entre dans les années 80 et la musique est différente. Et ceux qui représentent le disco sont vraiment plutôt mal vus et plutôt non. Ben, on passe plus à la radio, on passe plus à la télé, on parle plus de nous, et à la limite, c'est un peu genre, ah non, pas eux, non, ça va, oh,
c'est bon, c'est un peu le passé, quoi.
C'est genre l'overdose. Et donc là, il va y avoir, pour ce qui me concerne, un certain nombre d'essais qui ne seront jamais transformés, ou pratiquement jamais. Ça s'explique hein, quelque part, parce que c'est vrai que quand on crée une espèce de monstre comme Bande Virale, il est très difficile
de refaire ou même de
suivre tout simplement quoi. Mm-hmm. Donc en fait, je vais faire des essais un peu partout. Donc je fais un duo au Brésil avec George Ben. Je fais un disque en Angleterre, un titre qui s'appelle Talula. Je fais un disque en Allemagne qui s'appelle Nonstop. Je fais un duo en Italie, deux duos en Italie, pardon, j'en ai oublié un. Et rien ne fonctionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me ramène à Born to Be Alive en disant, mais monsieur, vous avez vendu X dizaines de millions de disques. Vous n'allez pas en plus venir nous casser les pieds encore maintenant, quoi. Donc c'est un peu ça, ou casser les oreilles avec autre chose. Donc à l'époque, je pense que j'aurais pu chanter la Marseillaise en breton.
C'était pareil.
Ça aurait été exactement la même chose. Donc rien ne fonctionne. Je fais même un disque, il y a un projet de disque. En français, donc je dis peut-être que là, ça pourrait effectivement faire en sorte que les Français tendent un petit peu l'oreille, en tout cas le métier français. Eh ben non, ça leur plaît pas non plus. Donc il va se passer à la louche 5-6 ans que ce soit moi ou que ce soit les autres qui ont touché le disco de près, on est dans le néant. Donc c'est une période où moi je fais des essais et qui ne seront effectivement jamais transformés. Ceci étant dit, ça m'a permis effectivement de faire un petit peu d'introspection, parce que au contraire de la période Born to Be Alive, j'avais le temps. Et puis, sur cette introspection, de faire l'analyse de ce qui m'était arrivé et d'essayer d'en tirer un petit peu la moelle, quoi, la crème de la crème, quoi, et de faire le point là-dessus. Et puis, de faire des expériences musicales, parce que je n'oublie pas, et ça c'est quand même primordial, qu'à la base, je suis musicien et compositeur, donc en fait... ça m'a permis de travailler avec les autres, d'ouvrir ma porte, de faire des choses dans d'autres langues, même si ça n'a pas réellement fonctionné, sauf pour effectivement quelques-uns qui sont vraiment des fans absolus et qui connaissent pratiquement tout. C'est des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais par contre, que ce soit musicalement ou humainement parlant, j'en ai vraiment tiré la quintessence. Ouais. Vraiment, c'était très intéressant. Et malgré le fait que je sois un artiste qui soit rejeté à cette époque-là, Born to Be Alive était encore dans la majeure partie des pays encore beaucoup diffusé, notamment dans les discothèques du monde entier. Et donc, financièrement, il n'y avait pas de problème. Donc,
oui, ça donc me... tu pouvais te permettre, effectivement, de prendre le temps et de faire des choses
Tout à fait. Et de faire de l'introspection, d'aller à la pêche. À l'époque, j'avais une maison. J'étais pas en Provence à l'époque. J'étais dans le Périgord. Et j'avais une maison qui était un moulin, qui était un joli moulin sur le bord d'une rivière. Et donc, par exemple, l'année que, si mes souvenirs sont bons, c'est l'année 84, ou 85 peut-être, j'ai passé l'année, toute l'année, en autarcie absolue dans ma maison, sans bouger, sans absolument bouger de la maison et en vivant en autarcie avec le potager.
Une répétition du confinement, quoi.
Voilà. C'est pour ça que finalement le confinement m'a gêné qu'à moitié. J'ai eu un très bel article sur la Provence, d'ailleurs, disant Patrick Hernandez a battu le record de confinement de la région. Il est resté enfermé chez lui 109 jours sans voir personne. Donc, ça a été une période où j'ai beaucoup appris, et je pense en plus que ça m'a été extrêmement bénéfique pour digérer cette histoire qui est quand même. Faut pas oublier quand même que pendant 3 ans, le fait d'avoir effectivement fait un tube planétaire et d'avoir eu effectivement toute cette satisfaction, ces honneurs, etc., ça peut faire perdre la tête.
Mais
un
oui,
peu.
Mais oui, c'est ce que j'allais te demander en effet après.
Tu vois, et en fait, cette période d'introspection, cette période de calme, cette période de réflexion et cette période d'essais musicaux. Essayer en Chine, essayer au Brésil, essayer en Italie, et tout, etc. Ça m'a appris plein de choses. Au niveau relationnel, j'ai connu des gens extraordinaires avec lesquels j'ai donc collaboré. Humainement, donc, c'était très, très riche. Et musicalement aussi. Donc, de ces échecs successifs, il en est sorti vraiment une réflexion qui m'a permis de digérer ce gros succès qui est Born to Be Alive et d'arriver ensuite très serein sur cette histoire-là en disant finalement, il y a 98% de positifs sur l'histoire Born to Be Alive et peut-être 2% de négatifs, mais dans la balance, ça compte pas, quoi. Donc finalement, c'est une sublime histoire, une très très belle histoire. Et alors effectivement, il y a des gens me disent, mais attends, t'es vachement serein là-dessus. T'es cool. Hein, oui, je suis cool parce que finalement, j'ai appris à digérer tout ça.
Évidemment, donc à ce moment-là, et puis à aujourd'hui, avec les années et la sagesse, t'as vu, un délicat, je dis pas vieillesse, hein. Mais non, mais plus sérieusement, avec la sagesse, bien sûr, aujourd'hui, tu peux avoir ce recul-là. Mais déjà, donc, au moment du succès de Born to Be Alive, tu n'as pas, comme certains pourraient avoir, effectivement, avec le succès, la grosse tête, les grosses voitures, ou je sais pas quelle vie de luxe, qui arrive dans l'histoire, quoi.
Les grosses voitures, je les ai eues, mais je les conduis pas parce que j'ai pas le permis de conduire.
Ah voilà.
Donc, mais j'ai eu beaucoup de limousines, beaucoup effectivement de très très grosses voitures. Mais non, en fait, moi, j'ai pris ça comme une expérience extrêmement positive, et je suis resté vraisemblablement aussi grâce à l'âge quelque part, parce que je suppose que avec un succès pareil, quand on a 18 ans. On ne réagit pas de la même façon quand on en a 30.
Oui, oui, oui.
30 ans, ça veut dire que j'avais déjà derrière moi 12 ans de scènes, de musique, de décès, de disques sortis, de ratés, de etc., etc. Donc en fait, j'étais pas un ado qui découvrait tout ça. J'avais déjà quand même beaucoup bourlingué et donc ça m'a aidé. Donc pendant le succès de Born, il y a peut-être eu quelques énervements. Qui pourrait passer pour des énervements de diva, mais bon, quand on est le lundi à Londres, le mardi à New York et le mercredi à Berlin, ce qui était le cas, il y a quand même un peu de fatigue, un peu de voilà,
décalage horaire et tout ça. Ouais.
Bon, j'en ai fait des décalages horaires, j'en ai fait des doubles, des triples. Il y a des moments où il y avait que Concorde qui me permettait de faire l'horaire en fait sur un truc, sur une télé à Los Angeles. Ben, si jamais il n'y avait pas eu un Paris-New York en Concorde, jamais j'aurais pu effectivement faire la télé à Los Angeles.
Mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont arrêté le Concorde à partir du moment où tu as commencé à plus voyager, hein.
Mais voilà, bah, avant qu'ils se cassent la gueule. Mais bon. Mais bon, effectivement, j'ai pris ça avec beaucoup de simplicité, recul et beaucoup de, alors, effectivement, beaucoup de gourmandise, j'allais dire, parce que finalement, j'ai trouvé ça génial. Et bon, qui ne le trouverait pas génial? Qui ne trouverait pas cette situation géniale? Mais j'ai pris ça avec de la gourmandise, mais une gourmandise naturelle, gentille, enfin, je veux dire, pas agressive, une gourmandise, une simple gourmandise, quoi. Donc, non, je suis resté calme à ce sujet. Et alors après, je pense que ça dépend aussi du caractère de chacun.
Oui,
moi, mon caractère, c'est comme Clara. Donc, voilà, je trouve que c'est une chance extraordinaire. Après, c'est vrai, on me demande dans l'entente, il y a une recette, il n'y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette. Et donc, j'ai pris ça comme un travail commun musical avec un producteur. Forcément au bon moment, avec les bons ingrédients. Un peu de talent et aussi un facteur chance extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que la chance, il n'y a pas que la chance dans cette histoire, mais elle est là quand même.
Ouais, ouais.
Parce que quand même, vu la manière dont on a démarré sur cette histoire, on a failli donc effectivement aller dans la panière. Il y a quand même un facteur chance qui fait que le producteur, moi, etc., les gens qui nous entourent, enfin, je veux dire, on a tenu contre vents et marées, et c'était une chance, c'était un moment, c'était du travail, c'était du bon travail, c'était un travail de producteur que souvent maintenant les producteurs ne font plus, c'est-à-dire que là on s'est laissé absolument aucune porte de sortie, et j'ai vu par la suite qu'on pouvait de temps en temps se laisser des portes de sortie en disant je suis pas tout à fait content du mix, mais bon, ça devrait le faire, on va faire comme ça, etc., etc. Sur Bantam, là, on s'est absolument laissé aucune porte de sortie. Tant qu'on n'a pas été satisfait à 250%, on a travaillé. Donc il y a aussi le facteur boulot, le facteur chance, le facteur vraisemblablement un peu de talent aussi, et le facteur de l'environnement musical du moment. C'est-à-dire on a profité effectivement d'une vague.
Oui.
C'est sûr.
Bon là ça fait trois quarts d'heure que du coup je te connais un peu mieux. J'avais noté une question, mais je pense avoir ma réponse, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que tu aurais préféré ne pas avoir de succès tout de suite, ou en tout cas pas celui-ci, pour te laisser le temps de travailler peut-être avec en collaboration avec un tel, faire tel ou tel album qui aurait marché un petit peu mieux à chaque fois, par exemple, jusqu'au gros succès? Ou est-ce que t'es très content finalement, et c'est, je pense, que la réponse du coup d'avoir eu cet énorme succès presque dans le début, quoi.
Oui, tu connais la réponse, effectivement. Moi j'aurais préféré évidemment faire un premier disque un peu confidentiel, que le deuxième soit un peu plus retentissant, etc., jusqu'à monter effectivement à un très gros succès. Ça m'aurait laissé effectivement plus satisfait de la situation que le fait d'avoir tout explosé sur le premier et ensuite d'avoir eu toutes ces difficultés au travers desquelles on a dû passer et qu'il a fallu effectivement digérer, ou il a fallu faire de la philosophie pour accepter tout ça. Donc j'aurais préféré effectivement commencer par le bas et arriver vers le haut. Là, j'ai commencé sur le très très haut, donc c'est une situation qu'il faut gérer, et je pense que toutes ces périodes, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, toutes ces périodes de non-succès m'ont permis effectivement de digérer ce succès qui a été un peu,
soudain,
il faut le dire, envahissant quelque part. Qu'il est plus maintenant, parce que maintenant j'en ai pris mon parti, et le fait d'être Mr. Born to Be Alive me dérange strictement pas, quoi. Je vois que les gens, que ce soit les musiciens, que ce soit les gens de télé, les gens de radio, les gens de la presse, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de forme de respect par rapport à quelque chose qui est devenu un standard musical indéniable C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de jugement de valeur sur cette chanson, quoi.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de tendresse de la part de ces gens, et je vois que quand on se rencontre, ils ont l'air contents de me voir, et moi, je suis content de partager un moment avec eux aussi. Donc ça, c'est quand même une situation qui est, alors, je dirais pas enviable, hein, parce que chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, dans mon cas précis, je trouve qu'on est, arrivé à un bon résultat, finalement. Même si ça peut être de temps en temps un petit peu réducteur, quoi, quelque
ouais,
part.
Ouais.
Hein.
Oui, bah oui, forcément. Et est-ce que tu as justement souffert avant le regain des années 80, Star 80 notamment, qui a aidé à ce qu'aujourd'hui ce soit finalement encore un gros succès et à la mode finalement. Est-ce que tu as souffert du « Ah, c'est un peu ringard les années 80 » avant justement le retour? Ou est-ce que cette image-là, elle te passait déjà au-dessus parce que toi, de toute façon, maintenant, t'étais passé à autre chose?
Non, j'ai pas réellement souffert de ça.
Non.
Je trouvais ça un peu con, mais bon, effectivement, je répète pratiquement dans chaque interview, je fais quand même une différence entre une chanson qui est un tube, ce qu'on appelle un tube ou un succès momentané. Le tube, c'est momentané, ça peut être un épiphénomène, ça peut disparaître du jour au lendemain, et un standard. Et en fait, la vie a fait, et le temps a fait, et les années ont fait que cette chanson, après avoir eu autant de difficultés à sortir, après avoir eu un succès mondial, planétaire, machin, etc., après avoir connu le désert de Gobi pendant 5-6 ans, cette chanson s'est installée comme un standard de la musique. Et ça, honnêtement, contre vent et marée, je trouve ça plutôt gratifiant.
C'est une jolie médaille, ouais.
Et c'est une très très jolie médaille. C'est une chanson dont on dit effectivement que on l'entendra lorsque je ne serai plus là, quoi. Ça fait partie des chansons qu'on réentendra de toute façon, même quand l'artiste lui-même ne sera plus de ce monde, quoi. Donc c'est quand même une belle réussite pour une chanson et pour un compositeur, parce que je suis pas seulement chanteur, je suis le papa de cette chanson, et ça c'est une autre satisfaction aussi, quoi.
Bah oui.
Et c'est vrai que Star 80 bien évidemment a été une tournée qui nous a effectivement mis en lumière ou remis en lumière, mais le retour du succès de en tout cas de la chanson elle-même, ça date pas de Star 80, ça date de bien avant, quoi.
Est-ce que d'ailleurs elle s'est seulement arrêtée en fait à un moment donné, parce que j'imagine que même encore en soirée, elle de toute façon elle a toujours passé finalement depuis qu'elle est sortie.
C'est ça. Et effectivement, il y a eu une période où, en tout cas, les gens de métier ne voulaient plus entendre parler de nous, mais ça a duré, disons, allez, en arrondissant, de 84 à 89, 5 ans, quoi, à peu près, dans cette période-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, au Brésil ou au Canada, dans les discothèques encore, il y avait quelques titres disco qui étaient des incontournables.
Mais oui.
Donc Village People,
bon, oui, c'est ça.
I Will Survive, Staying Alive, tous ces titres passaient encore dans les discothèques. Donc effectivement, on n'a jamais vraiment disparu du paysage, même si à un moment ça supportait les gens parce qu'il y en avait eu trop, et qu'on peut le comprendre à la limite. Hein. Trop de choses tuent la chose, quoi. Donc,
ce qu'on disait donc tout à l'heure.
Ouais.
Effectivement. Est-ce que on est dans l'époque aujourd'hui de créer des biopics un peu sur tout? Est-ce que tu imaginerais un biopic sur Patrick Hernandez et Born to Be Alive?
Alors c'est marrant que tu m'en parles, parce qu'effectivement c'est sur les rails depuis
mais
deux
non.
ans. si. C'est effectivement. Alors je peux pas en parler parce que
non, évidemment.
C'est quelque chose qui est en gestation, mais les chansons sont déjà écrites. Je travaille en collaboration beaucoup avec mon camarade musicien et chanteur Alec Mention, qui est chanteur de Léopold Nord, qui est avec nous sur la tournée Star 80, et qui était donc un musicien et chanteur belge. Donc on travaille beaucoup sur les chansons d'un long métrage, mais qui sera, la seule chose que je puisse dire, parce que je peux pas rentrer dans les détails, mais c'est un long métrage qui sera pas l'histoire de Born to Be Alive. C'est l'histoire de Patrick Hernandez. Ouais. C'est-à-dire, le film commence lorsque j'ai 7 ans, avec effectivement les cassures, les brisures, la vie d'un enfant, et puis en plus après l'adolescence, la découverte de la musique comme je l'expliquais tout à l'heure, grâce aux Beatles, et puis on arrivera à un moment ou un autre, on arrivera effectivement à Born to Be Alive, tout ce que ça représente, et après bon un peu la descente aux enfers, et puis ça se terminera avec un happy end qui représentera à peu près l'année 1990, et ça s'arrêtera là. Mais c'est un chouette projet, et c'est vraiment sur les rails.
T'as vu, j'ai eu du nez. On s'en était pas parlé avant.
non, en plus c'est un scoop, parce que c'est vrai que je n'en parle pas. Comme c'est quelque chose qui n'est pas
validé, ce qu'on
officiel,
veut. Ouais.
Donc je peux en parler un peu à mon couvert, mais la question la question était bien posée. Donc voilà, t'as un scoop.
Bon écoute, merci. On suivra ça avec attention. Est-ce que j'ai
Le film s'appellera Born to Be Alive. Forcément.
Là du coup, oui, c'est sûr. Il y a La Roche Valmont qui s'est amusé à faire 157 versions, enfin 157 je caricature, de sa chanson T'as le look coco. Est-ce que, vu que à la base c'était pas une chanson disco, est-ce que il y en a eu d'autres versions officielles entre guillemets sorties de Born to Be Alive ou pas?
Alors oui, il y en a eu pas mal. Alors il y en a eu même beaucoup d'ailleurs, entre parenthèses. Venant de moi, il y a eu quelques remixes qui étaient un peu différents de l'original, qui avait été fait par le producteur original de la chanson, qui avait fait des essais effectivement sur cette chanson. Et j'ai moi-même en fait, et ça tu peux la retrouver si tu tapes tout bêtement sur YouTube, tu tapes Patrick Hernandez version acoustique de Born to Be Alive. J'ai refait il y a 4 ans une version dans l'esprit de ce que j'avais fait quand j'ai écrit la chanson.
Ouais.
À la base, une version acoustique qui est très jolie, que j'ai eu l'occasion de faire au journal télévisé de Delarousse une fois. Je l'ai fait à RTL, je l'ai fait à Europe, je l'ai fait à France Inter aussi, ou à Sud Radio également, je crois. Et donc c'est une chouette version. Donc il y a juste la voix, la guitare et quelques chœurs, et c'est vraiment une très chouette version. Après, les versions de Born enregistrées par d'autres, il y en a pléthore.
Oui, ça évidemment.
Des dizaines. Il y a même une version tahitienne avec le ukulélé, les pirogues, les bateaux. Il y a des versions hard rock, il y a des versions, enfin bon, il y en a pléthore.
Mais je l'ai là, ouais. Mais la version acoustique, je suis en train de regarder, du coup j'écouterai ça juste après.
Bah, tu peux même faire de la housse, la version acoustique de la housse, où tu devrais la trouver.
Ouais.
C'est assez simple. Mais elle est vraiment chouette. Elle est vraiment très chouette. Et c'était un coup de chapeau à la version originale, en fait. Je l'ai fait pour le fun, hein. Vraiment, je l'ai fait pour le fun. Et je trouve que c'était un petit coup de chapeau que je devais donner à la chanson, parce qu'elle, bon, voilà, elle est tout à fait dans l'esprit de ce que j'avais fait quand j'ai écrit la chanson, et elle servira bien évidemment dans le film.
Voilà.
À un moment ou à un autre, celui qui va interpréter le Patrick Hernandez de l'époque, il va donc créer la chanson pendant le film, et donc ce sera cette version vraisemblablement qui va être à l'honneur. Donc voilà.
Très jolie chanson donc acoustique. Ouais, parce que des fois on découvre vraiment les paroles dès que c'est chanté autrement. Donc c'est une belle, ouais, je vais aller écouter ça. On arrive à la fin, hein, du podcast. J'ai toujours une question à la fin pour finalement mettre quelqu'un d'autre à ta place, entre guillemets. Qui t'aurait aimé entendre venir raconter ses échecs, sa manière de gérer ce genre de sentiment s'il y avait eu des podcasts il y a 30 ans en arrière, ou qui t'aimerait entendre aujourd'hui à ta place?
Oh, je pense que, enfin, il y a plein de gens qui ont des histoires à raconter, mais je vais parler de quelqu'un de notre bande. En fait, il y a quelqu'un qui a fait un nombre d'expériences absolument incalculables et qui a des tonnes et des tonnes de choses à raconter, notamment musicales. C'est Jean Schultes.
Ouais.
Jean Schultes, que l'on connaît au travers d'une chanson. Et par contre, il a un parcours absolument incroyable, quoi, incroyable. Et il a vraiment des tonnes d'histoires à raconter. Donc voilà. Et puis pour rendre à César ce qui appartient à César, je dirais Paul McCartney, qui a beaucoup de choses à raconter.
Alors là, ça va être plus compliqué, je ne te cache pas, d'atteindre Paul McCartney, mais Jean Schultes, disons que c'est plus probable. Et tu sais, oui, qu'il a un parcours incroyable parce que tu le connais ou parce que tu aimerais entendre son parcours que tu ne connais pas?
Non, c'est un conseil amical que je te donne.
D'accord.
Parce que c'est mon voisin, donc il habite à Cavaillon, il habite à 10 minutes de chez moi. Et on a été ensemble sur Star 80 pendant plus de 10 ans. On a fait des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres ensemble, en train, en parlant.
Ça laisse le temps de se raconter, oui.
et je sais que, par contre, c'est pour quelqu'un qui interview, c'est un puits. C'est-à-dire qu'il peut parler de ses expériences jusqu'à demain matin, tellement il en a raconté, quoi. Donc, il a de l'humour, c'est un charmant garçon, et puis c'est un bon pote. Donc voilà. Mais McCartney est pas mal aussi, hein.
Ah oui, bah ça, tu m'étonnes. Bon, il faut juste que je bosse un peu l'anglais. Ah oui, je vais partir vivre dans le Kent 6 mois et puis ça va aller. Merci beaucoup, Patrick, d'être passé dans Essaye encore. Et puis bon, on se dit à bientôt au cinéma alors.
À bientôt. Et puis merci encore pour ce moment de partage. J'aime vraiment beaucoup ça. C'était très, très, très sympa.
Ah bah, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Donc 39e avec Patrick Hernandez. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur plein de plateformes. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube également. Un peu partout en gros où on peut écouter des podcasts, c'est possible de retrouver. Essaye encore, tu tapes Essaye encore podcast ou Geoffrey Deloux quelque part dans une barre de recherche et normalement tu devrais pouvoir me trouver. Tu peux aussi évidemment le partager, cet épisode, s'il t'a plu. Partager le podcast, parler de ce podcast autour de toi si tu l'écoutes. Et puis venir liker aussi la page Insta, le compte Insta Essaye Encore Podcast, pour suivre un petit peu toutes les news concernant, ou Geoffrey Deloux, hein, mon compte Insta aussi ça marche, pour suivre toutes les news concernant donc ce podcast. Voilà, je te retrouve donc très vite avec un nouvel invité, ou une nouvelle invitée, j'en sais rien, ce sera la surprise. Ciao, rendez-vous au prochain numéro.